La croissance et sa souffrance. Romains chapitre 5, verset 2. Pourquoi je parle de la croissance et sa souffrance? Parce que quand tu grandis, que ce soit n'importe quoi, quand il y a une croissance, il y a automatiquement une souffrance aussi. On a regardé les enfants. Quand les enfants, ma mère, elle disait toujours, quand l'enfant est chien, il ne dort pas la nuit, elle disait, ben, c'est parce qu'il y a une dent qui perce, une dent qui grandit, puis là, la dent, pour grandir, il faut qu'elle perce la chair, donc ça fait de la souffrance. Puis là, ça cause une souffrance, mais c'est la croissance, c'est normal. Quand tu grandis, tu souffres, parce que t'es petit, puis là tu grandis, fait que là, la chair, ce qui est en toi cherche à être plus grand, et ça engendre une souffrance. Puis ce serait la même chose, si on grandirait très très vite, si on enfant grandirait très 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 vite, on serait de 3 pieds à 4 pieds dans l'espace d'une semaine, il pleurerait sans arrêt parce que ça ferait trop mal, il grandirait trop vite, il sentirait son corps se développer au-delà de ce qu'il peut, là ça créerait beaucoup de souffrance. C'est pour ça que là, en Dieu, en Christ, la souffrance, elle se fait lentement sous la direction de Dieu, comme une mère qui prend soin de son enfant. Mais il y a une souffrance qui est engendrée par cette croissance-là. C'est comme notre foi commence petit. Pour grandir, ben, il y a des épreuves, il y a des situations qui vont venir, qui vont faire que cette foi-là grandit. Puis chaque situation, ben, ça va amener un peu de souffrance. Mais ce n'est pas une souffrance destructive. C'est une souffrance qui vient avec la croissance, qui est constructive. Parce qu'on sait que dans la vie, il y a des souffrances qui peuvent détruire. Il y a des choses mauvaises qui peuvent arriver, qui peuvent détruire une personne. Il y a des souffrances qui sont mauvaises, qui sont destructives. Des souffrances qui viennent du diable, des souffrances qui viennent du péché. Ça, c'est des mauvaises souffrances. Ce n'est pas de ces souffrances-là que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler vraiment de ce qui se fait en Dieu, qui est constructif, qui est une souffrance, mais c'est la souffrance normale d'un chrétien qui grandit dans la grâce, qui grandit en sagesse, qui grandit dans la stature de Christ, parce que c'est une grâce. Ça, on va le voir tantôt, que la souffrance en Christ est aussi une grâce, c'est-à-dire un cadeau qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui ne vient pas de toi. C'est pas toi qui essaies de souffrir pour essayer de grandir. Non, non. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi et qui engendre une certaine souffrance à cause de cette croissance spirituelle. Et on va lire Romains chapitre 5, le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, au verset 3, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Je suis allé voir dans le grec qu'est-ce que ces mots-là voulaient dire. Il dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Parce que l'apôtre Paul venait juste de dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis à cause que ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous avons la paix avec Dieu. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce extraordinaire. On a été justifiés par l'agneau. C'est un cadeau. On ne l'a pas mérité. On était pécheurs, nous méritions la mort. Puis Christ a pris à cause de la croix, il a pris sur lui-même notre mort. Et à cause de ça, on a accès à la vie éternelle. C'est une grâce. L'apôtre Paul va dire, on se glorifie, on se réjouit dans cette grâce-là, mais bien plus. Il y a plus que simplement la grâce de croire en Jésus-Christ. comme l'apôtre Paul va dire plus loin. Il y a plus que ça, que simplement croire en Jésus-Christ. Il y a une grâce de souffrir avec Jésus-Christ. Parce que la souffrance avec Jésus-Christ engendre une croissance. Puis, il mentionne combien que cette souffrance-là n'est pas due à cause du péché, parce que Christ a réglé à la croix la question du péché. Ce n'est pas une souffrance qui vient parce que Dieu nous tape sur la tête. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas une souffrance due au péché. Ce n'est pas un châtiment qu'il parle ici. Là. Il parle d'une souffrance de croissance. C'est comme si, dans le fond, Jésus-Christ souffre encore pour son Église présente. Comme un père, comme une mère qui souffre à cause de son enfant, qui voit son enfant rebelle, qui voit son enfant prendre un mauvais chemin, le père et la mère vont souffrir à cause de son enfant. Parce qu'elle ne veut pas qu'il arrive du mal à son enfant. À l'intérieur d'elle, il va avoir une souffrance dans son cœur parce qu'elle porte son enfant. Mais Christ fait la même chose avec son Église. Parce qu'il porte son Église, il souffre pour son Église. Puis cette souffrance-là, de croissance, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire, « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous. » Il parle aux Galates. « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Parce que les douleurs de l'enfantement, c'est des douleurs. Ça cause une souffrance. Mais c'est positif parce que la femme qui souffre à cause de l'enfantement, bien, il vient un enfant. Hein? Il arrive un enfant à cause de cette souffrance-là. Il sort un enfant. Il ne souffre pas en vain. C'est la même chose en Christ. Christ a une souffrance, puis il nous partage cette souffrance-là. Mais ce n'est pas une souffrance négative. Ce n'est pas une souffrance en vain. C'est une souffrance qui a un but, qui est glorieuse, qui a un but qui est la gloire. Donc, on voit ici, au verset 3, nous nous glorifions même des afflictions. Le mot affliction, en grec, c'est le mot tlipsis. Tlipsis. Qui veut dire affliction, qui veut dire épreuve, qui veut dire tribulation. C'est le même mot qui est employé en Jean, chapitre 16, le verset 33. Quand Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des afflictions, des épreuves. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis là, c'est là qu'il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. Vous aurez des tribulations, des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, il y aura des épreuves, mais même ces épreuves-là qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, Dieu va se servir de ces épreuves-là pour nous faire grandir, nous emmener dans un but où on va voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça qu'il dit, nous nous glorifions même des afflictions, des épreuves, des tribulations, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans d'autres traductions, ça va dire la patience. Le mot grec qui est là, c'est hupomone. Hupomone. Qui veut dire hupo, ça veut dire par-dessous. Hein, le mot hupo, c'est un préfixe qui veut dire par-dessous. Puis mone, ça vient de demeurer. Donc le mot patience, ça veut dire demeurer par-dessous. Autrement dit, c'est tu passes au travers de la tribulation, de l'épreuve, puis là tu demeures par-dessous, la patience. T'apprends à demeurer par-dessous, en-dessous, par-dessous une chose. Tu demeures par-dessous cette épreuve-là. Il faut bien se rendre compte que en Christ, nous sommes d'abord en Jésus-Christ, nous sommes d'abord sous le sang de l'agneau. OK? Notre première position, c'est de demeurer sous le sang de l'agneau. Sous sa couverture, sous sa justice, sous sa sanctification, sur son œuvre, sur son plan. Et dans ce plan-là, il va y avoir des tribulations. C'est pour ça qu'il est demeuré dessous d'accepter qu'il y ait des situations difficiles. Mais je le fais sous Christ. Je suis sous le sang. Je sais que c'est Christ qui est en contrôle de la situation. Je n'ai pas à m'inquiéter. Christ est en contrôle de cette épreuve-là. Il va faire concourir cette épreuve-là à mon bien. Pour sa gloire. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je demeure dessous, mais je demeure dans la paix de Dieu. Dans la paix de Christ. Mais il faut que j'apprenne aussi, comme disait l'apôtre, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les afflictions, dans les épreuves. Il faut apprendre que apprendre à se plaire là-dedans. Accepter que, oui Seigneur, si tu veux me conduire au travers de cette épreuve-là, je te dis oui. J'accepte de demeurer là où tu veux que je sois. Parce que là où tu veux que je sois, c'est la meilleure des places. Parce que là où tu veux que je sois, tu vas être avec moi. Mm-hmm. Si Christ nous fait passer au travers des épreuves, il va être lui-même avec nous dans cette épreuve-là. Dieu lui-même va être au travers du feu, avec nous. Mm-hmm. Au travers de l'eau, il va être avec nous. Dans le feu, dans l'eau, il va être avec nous. Mm-hmm. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que ça tient le mot. Les affections vont produire l'hypoménée. Ça veut dire ils vont t'apprendre à demeurer dans la paix au travers de l'épreuve. Tu vas rester dans la paix de Dieu même quand l'épreuve va être là. Puis ça va se développer à l'intérieur de toi. Ça va grandir. C'est pour ça que le mot patience en français, c'est une qualité très importante du caractère du chrétien. C'est quelque chose que Christ avait. Ça dit de Moïse, il n'y avait pas d'homme aussi patient sur la terre que Moïse. Le mot qui est là, c'est le mot patience. Il n'y avait personne sur la terre qui était aussi patient que Moïse. Parce que Moïse avait été formé à l'école de Christ. Moïse avait été formé dans l'épreuve, dans les souffrances. Il avait développé ce caractère-là de patience. C'est-à-dire de même si tu passes au travers des épreuves, tu demeures calme. Tu es patient. Tu ne t'affoles pas. Tu sais que tu reconnais que tu es sous le sang de l'agneau. Tu demeures là parce que tu es dans les bras du Seigneur. Tu as confiance. Tu sais que tu es en paix parce que Dieu se sert de cette épreuve-là, de cette patience-là pour mon bien. Pour faire concourir toutes choses à mon bien. Pour sa gloire. Se développe à mesure que tu pratiques, que tu apprends à demeurer sous le sang dans la joie de Dieu au travers de cette épreuve-là, ton caractère se forme. Ce qu'on appelle la patience grandit en toi. Ce fruit de l'esprit qui est la patience, ça grandit en toi. Puis ce fruit de l'esprit, c'est de demeurer dessous. De demeurer sous le sang, de demeurer dans l'épreuve, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. C'est ça que ça veut dire le mot patience. C'est pour ça que ça dit, l'épreuve va engendrer la patience. Tu vas apprendre à demeurer dessous, dans la paix, dans le calme de Dieu. Et l'épreuve, au verset 4, la persévérance, la patience va engendrer, dans la version française, elle dit la victoire dans l'épreuve. Mais le mot qui est là, qu'on traduit ici par victoire dans l'épreuve, c'est le mot dokimé. Le mot dokimé, ça veut dire simplement approbation divine. L'épreuve va engendrer la patience, va engendrer le fait que tu vas demeurer sous cette épreuve, sous le sang d'agneau. Tu vas apprendre à demeurer dans la paix de Dieu. Parce que tu auras appris à demeurer dans la paix de Dieu, tu auras appris la patience, ça va engendrer l'approbation divine. Ça veut dire que Dieu va t'approuver. Il va reconnaître que tu es son enfant. Il va reconnaître que tu es son serviteur parce que tu acceptes de passer le chemin que lui a préparé pour toi. Même si c'est un chemin qui engendre de la souffrance, parce qu'il va y avoir une certaine souffrance, là, mais c'est en Christ, c'est pas une mauvaise souffrance, c'est une bonne souffrance. Puis quand tu apprends à demeurer là-dessus, Dieu donne son approbation. Parce que l'apôtre Paul lui-même va dire, le sceau de mon apostolat
le sceau, c'est-à-dire l'approbation, ce qui approuve mon apostolat, ce qui approuve le fait que je suis apôtre, ce qui prouve la preuve de mon apostolat. C'est les signes, les prodiges et les miracles et une patience à toute épreuve. Une patience à toute épreuve. Ça veut dire quoi? Une patience à toute épreuve. Peu importe l'épreuve, j'ai appris à demeurer dessous et à me plaire dans les faiblesses, à me plaire dans les outrages, à me plaire dans les persécutions pour Christ. C'est comme une quelque chose qui se développe tranquillement par l'Esprit de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut développer ça en nous. Mais cette patience-là est si importante aux yeux de Dieu que lorsque Dieu voit cette patience-là dans notre cœur, il met son sceau, son approbation. Il dit, oui, celui-là, c'est mon serviteur. Je l'aime parce qu'il me suit. Il m'a suivi à la croix. Il porte sa croix tous les jours. Il renonce à lui-même. Il fait tout ce qu'il veut. Quand je me mets dans une situation des fois difficile, il continue à me suivre. Il ne rebute pas et dit, oh, Seigneur, moi, je ne suis pas là-dedans. Non. Il continue à me suivre, pas à pas, même quand il y a la souffrance. C'est ça que Dieu a dit à Job. Le livre de Job dit, vous avez vu la patience de Job. La patience de Job. Parce que Job a souffert, puis il a continué à demeurer en Dieu. Même s'il souffrait, il continue à demeurer en Dieu. Il demeurait en Dieu, il demeurait en Dieu. Il continue à croire en Dieu. Sa femme lui disait, maudit Dieu, tu vas mourir, tu vas arrêter de souffrir comme ça, tu souffres, ça n'a pas d'allure. Mais non, lui disait, non, je continuerai à craindre Dieu, je continuerai à croire en Dieu. Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait dit au début, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Il n'y avait personne aux yeux de Dieu qui était aussi juste que Job. Mais Dieu voulait lui donner quelque chose de plus. Ça s'appelle la patience. Parce que la patience est le caractère le plus noble, le plus proche du caractère de Christ. C'est ce caractère-là qui fait que l'approbation divine vient sur cette personne-là. Puis quand Job a porté l'épreuve, la souffrance, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu lui-même a béni Job au double de tout ce qu'il avait avant. Dieu avait dans sa tête, je veux le bénir encore, c'est mon serviteur, il m'aime. Mais je veux le bénir encore le double. Je veux donner le double de ce qu'il y a. La seule façon qu'il a trouvé pour le bénir au double, c'est que là, il faut que j'y apprenne la patience. Ce caractère de l'esprit, ce fruit de l'esprit qui est le plus beau, peut-être le plus noble, le plus à l'image de Christ. Ce qui a permis qu'il y ait une souffrance dans la vie de Job pour amener ce fruit par excellence qu'est la patience. Et là, Dieu a pu bénir encore plus. C'est comme si Dieu voulait donner une approbation divine à Job, mais il ne savait pas comment. Fait qu'il dit, bon, il faut que je développe en lui ce fruit par excellence qu'est la patience. Il va peut-être trouver ça difficile, il va y avoir de la souffrance. Mais je vais développer ce fruit-là en lui. Il y a une question de maturité en Christ. C'est pas quelque chose que quand tu es jeune chrétien, tu comprends facilement. La patience, c'est vraiment le propre des pères en Christ, des propres des gens qui sont devenus matures, puis qui sont capables de porter pas seulement leur vie, mais qui sont comme des pères. Ils sont capables de porter aussi la vie des autres. Ils sont matures. Ils portent aussi la vie. Ils sont comme des pères de famille qui portent des enfants spirituels. Ça, c'est propre d'un père, de quelqu'un qui a acquis une certaine maturité, qui porte, parce qu'il a le caractère de Christ en lui, il est capable de porter, pas seulement lui-même, mais les autres aussi. Il les porte comme un sacrificateur qui portait sur son cœur les enfants d'Israël. C'est la même image qu'on a ici. C'est ça que ça dit. Ensuite, ça dit l'épreuve, la persévérance va engendrer la patience va engendrer la victoire dans l'épreuve qui est la dokimé, qui est l'approbation divine. Et cette approbation divine va engendrer l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Le mot espérance, c'est le mot elpis, qui veut dire une joyeuse anticipation de ce que Dieu va faire. Tu sais que l'épreuve concourt à ton bien. Tu sais que Dieu, la gloire de Dieu va éclater au travers de ça. Fait que l'espérance, c'est que Dieu ne donne pas l'épreuve pour que je meure là. L'épreuve n'est pas là pour me détruire. Comme l'apôtre Paul dit, Dieu m'a délivré de toutes mes épreuves. Dieu ne nous laisse pas dans l'épreuve. Il ne se plaît pas de nous voir souffrir. C'est pas ça du tout. Il ne se plaît pas dans notre souffrance. C'est pas ça. Au contraire, il va nous sortir de cette souffrance-là pour nous réjouir notre cœur, pour nous remplir d'espérance, pour manifester sa gloire. Le mot espérance, c'est une joyeuse anticipation de ce que Dieu prépare. C'est que Dieu a un plan à travers tout ça. Dieu préparait quelque chose. C'est comme s'il a permis tout ça pour arriver à son plan, à son but. Puis ça dit bien au verset 5, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne trompe pas notre espérance. Il ne dit pas, attends ça, puis après ça, je te déçois, je ne te donne pas ce que tu veux. C'est pas ça. Il dit, tu ne seras pas déçu. Espère en moi. Tu ne seras pas déçu. Oui, il va y avoir des épreuves, mais l'épreuve elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Puis ce qui s'en vient va être encore une bien meilleure chose. Ce que Dieu va préparer, le plan que Dieu prépare, c'est encore beaucoup meilleur. C'est-à-dire, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Dieu nous aime. Mm. On est dans son amour. Dieu, c'est un Père. Mais Jésus, c'est le Père de la création. Jésus, c'est lui qui a créé la création. Puis Jésus, c'est notre Père. Notre Père, je dirais, c'est lui qu'on est sorti de lui.
Enchanté.
C'est lui qu'on a été engendré de Jésus. C'est Dieu le Père qui nous a engendrés à partir de Jésus, mais on est sortis de Jésus. C'est notre Père, je dirais, terrestre, spirituel, c'est Jésus. Et c'est lui qui est avec nous là-dedans. Parce que Jésus, il prend tous les termes qui peuvent exister. Il est à la fois notre Père, mais il va dire aussi qu'il est notre époux. Ça dit dans Ésaïe, je suis votre époux. Dieu, l'Éternel est votre époux. Vous n'êtes pas délaissé. Vous êtes. Dieu s'appelle notre époux. Il va s'appeler notre Père. À un moment donné, il va s'appeler notre époux. Il prend tous les termes. Les personnes qui nous font du bien dans notre vie, de nos parents, il peut avoir notre époux. Il prend tous les termes où quelqu'un prend soin de nous. Dieu est là. C'est Dieu. Dieu ne sait pas comment décrire la manière qu'il nous aime, mais il prend des termes humains pour nous faire comprendre à quel point il nous aime. Il nous aime plus qu'un père, il nous aime plus qu'une mère, il nous aime plus qu'un époux. C'est juste des images ça, terrestres, mais son amour est encore bien plus grand que ça. Il nous aime d'une manière extraordinaire. On va tourner dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 8. Il y a là une image. Quelquefois, il faut départager les choses qui nous arrivent. Parce que dans la vie, on ne comprend pas toujours pourquoi les choses nous arrivent. C'est vrai qu'il peut arriver des souffrances dans la vie qui sont dues à cause de notre péché, de notre négligence, de notre ignorance. Il y a certaines souffrances qui peuvent arriver de ça. Certaines souffrances peuvent arriver parce que le diable veut essayer de s'en prendre à nous, veut essayer de nous détruire, d'envoyer des malédictions sur nous. Mais on n'a pas accepté ces souffrances-là. Ces souffrances-là, Jésus-Christ les a portées. On n'a pas à accepter cette sorte de souffrance-là. Mais il y a une autre souffrance qui est due aux épreuves. Celle-là, elle vient de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour départager ça? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées, puis il y a d'autres choses qu'il faut simplement se soumettre. Faut se mettre dessous cette épreuve-là, dans la main de Dieu, puis accepter que les choses soient ainsi. D'autres fois,
faut dire non, arrête de moi Satan. Toutefois, il faut dire, j'accepte pas ça. La maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Elle vient de diable. Je n'accepte pas cette œuvre de destruction-là. Au nom de Jésus, je prends autorité et je mets ça de côté. Je ne peux pas accepter ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour départager ce qui vient du diable ou ce qui vient de mes propres ignorances puis mes propres sentiments à moi et de la souffrance qui vient vraiment de Dieu, des épreuves qui arrivent dans ma vie mais qui servent vraiment le plan de Dieu. On voit dans la vie de Élie, 2 Rois, chapitre 2, verset 8, il y a là une image. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et ils passèrent tous deux à sec. Remarquez la manière que ça s'est fait. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Les eaux, dans la Bible, c'est souvent l'image du monde. Dans l'Apocalypse, on voit que les eaux sont comparées au monde. Or, le monde autour de nous nous amène des souffrances. OK? Toutes sortes de souffrances. Mais on voit que Élie, il y avait des eaux devant lui. Il fallait qu'il passe au travers des eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé son manteau, il a frappé les eaux. C'est une image de ce que Christ a été frappé à la croix. Puis quand Christ a été frappé à la croix, ça devient, l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié, le monde a été crucifié pour moi, à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, et moi, j'ai été crucifié avec le monde. Quand je me saisis de cette réalité-là, que le monde a été frappé, il a frappé les eaux, ça, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est une image. À la croix, Jésus-Christ a frappé les eaux du monde. Autrement dit, il a eu la victoire sur le monde. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu les circonstances qui nous entourent. Il a vaincu tous les gens. Le monde, en général, qui veulent essayer de nous pressuriser, il a vaincu ça. Ça veut dire que le contrôle, c'est lui qui maintenant qui domine. C'est plus le monde autour. C'est plus les gens autour qui ont le contrôle sur nous. C'est plus le monde qui a le contrôle sur nous. C'est Jésus-Christ qui a le contrôle sur le monde et sur nous. Fait que tout ce qui est dans le monde, qui nous arrive dans le monde, c'est Jésus-Christ qui a le contrôle là-dessus. Il a vaincu. Élie, ici, a roulé son manteau. Il a frappé les eaux. Le manteau, on a déjà vu, le manteau, c'est le symbole du vêtement, la justice de Christ. On est revêtu sous le sang. À cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, on a un vêtement. On n'est pas justifié à cause de nous. On ne vient pas devant Dieu parce qu'on est bon. On vient devant Dieu parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et on y croit. C'est notre foi. Notre foi est basée là-dessus. C'est comme si Élie a pris son manteau. C'est une image. On se met sous le sang de l'agneau. On se rappelle qu'on est justifié à cause de son sang, que l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Et il a frappé les eaux. C'est l'image qu'on prend ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Le monde a été crucifié. On prend cette victoire-là. Là, qu'est-ce que ça dit qui s'est passé quand il a frappé les eaux? Les eaux se partagèrent ça et là. Christ a frappé, a vaincu le monde. Puis les souffrances qu'il y a dans le monde, il va en avoir ça et là. Il y a des souffrances ici et là qui vont rester dans notre vie. Mais les souffrances négatives vont se passer. OK? À cause de ce que Jésus a fait à la croix. Les souffrances négatives se tassent et je peux passer au travers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'eau, qu'il n'y aura jamais d'épreuves. Je vais passer au travers des épreuves. Il y a resté des eaux ça et là. Mais il a passé à sec, cette vie. C'est une belle image. En Jésus-Christ, quand on se saisit de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, j'ai été crucifié avec le monde. J'ai été crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Ça veut dire que le monde n'a plus de pouvoir sur moi.
je suis libre par rapport au monde, ça veut dire que toutes les souffrances que Dieu va permettre dans ma vie, ça va être des souffrances constructives. Et j'ai à passer au travers, à demeurer sous le sang, à passer au travers de ça, et avoir la main de Dieu qui va me faire échapper de ça, qui va manifester sa gloire, son royaume, son règne dans ma vie. C'est merveilleux parce que, ça dit, les autres se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. C'est ça qui nous arrive en Jésus-Christ. Quand on se saisit de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, la victoire sur le monde nous est acquise. On n'a plus à être oppressé par tout ce qui est les circonstances négatives qui nous arrivent. On peut rester dans la paix de Dieu. Parce que oui, il va y arriver des circonstances difficiles. On a vécu, on a tous vécu. On peut commencer à louer Dieu, à adorer Dieu, se remettre sous le sang et contempler l'œuvre de Christ, puis savoir qu'il a tout accompli et s'en occupe. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prend soin de vous. Lui-même. Et on n'a pas de problème, c'est lui qui maintenant qui domine sur le monde. Toutes les circonstances, c'est lui qui les arrange. Il y a un fil tracé. Les choses doivent suivre ce fil-là. C'est Christ, à cause de ce que Christ a fait à la croix, qui a tracé pour nous une vie nouvelle, une vie pleine de richesse et d'abondance. C'est ça, on voit que on a fait un partage de notre vie. Certaines choses, certaines souffrances qui viennent du diable, on n'a pas à les accepter, ces choses-là. Comme l'apôtre Pierre va dire, un moment donné, il va dire que personne d'entre vous ne souffre comme malfaiteur, comme s'étant ingéré dans les affaires d'autrui, comme voleur ou quoi que ce soit d'autre. Il disait, en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de souffrir pour ça. Parce que si vous êtes en Jésus-Christ, vous ne devriez plus souffrir pour ça. Parce que si vous êtes revêtu de sa justice, vous vivez dans la vie de justice de Christ. Et en tant que chrétien, c'est pas normal que vous souffriez pour ça. Mais, il y a une souffrance. L'apôtre Pierre va en parler. Qui va venir dans les circonstances de la vie. Puis ça va être la souffrance de Christ pour son Église. Il va vous la partager. Vous allez passer au travers de tout ça. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. Verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, trois petits points, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et ça dit bien, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si Dieu a accordé à Jabez ce qu'il avait demandé, parce que c'était conforme à sa volonté. C'est donc conforme à sa volonté que nous soyons bénis. Si tu me bénis, c'est donc conforme à sa volonté que nous soyons bénis. C'est donc conforme à sa volonté que tu étends mes limites, hein, qu'il y a une croissance. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une croissance, il va y avoir une certaine souffrance. Parce que avec la croissance, il y a une certaine souffrance. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, remarquez, le malheur, c'est la malédiction. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Parce que Christ a été fait malédiction pour nous. Nous ne sommes plus sur le cycle du malheur. On n'est plus lié à ça. Ce n'est plus un cycle de malheur qui est dans notre vie, c'est un cycle de bonheur. Toute chose concourt à notre bonheur, à notre bien. Avec la prière de Jabet était conforme à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, veut nous préserver du malheur. Aucun malheur ne t'approchera de ta tente. Aucun malheur. Et quand il arrive une épreuve, regardez pas ça comme un malheur. On n'a pas à regarder. Les malheurs, on est sous Christ, les malheurs ne peuvent plus nous atteindre. C'est le bonheur qui nous atteint. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Là, il y avait trois petits points. Pourquoi trois petits points en dessous de la souffrance? Parce que Dieu a répondu, mais il y a certaines souffrances, Dieu va nous épargner. Mais d'autres souffrances, on va passer au travers. C'est pour ça qu'il y a trois petits points. C'est parce que ce n'est pas une manière absolue. Non, il va y avoir une certaine souffrance dans la croissance. Mais ça va être une bénédiction. Ça ne sera plus une malédiction. Dieu a répondu à la prière de Jabez parce que, premièrement, ça dit, je l'ai enfanté avec douleur. Il avait connu beaucoup de douleurs. On voit que l'enfantement apporte des douleurs. Si tu veux participer à l'œuvre de Christ, mais Christ enfante, Christ est en train d'enfanter son Église, Christ est en train d'étendre ses limites. Alors tout ça, ça engendre une certaine souffrance. Et c'est normal qu'on va souffrir avec Christ. Mais au travers de tout ça, c'est toujours la bénédiction. Parce que l'enfant qui est enfanté dans les douleurs, à un moment donné, il va réjouir aussi le cœur de ses parents. La bénédiction de Dieu va être là. On voit que c'est sa volonté, que Dieu a un plan tracé, puis son plan est bon, son plan est merveilleux. Il n'y a rien qui va arrêter son plan. 2 Corinthiens 4, verset 17 et 18. On va finir avec ça. Car nos légères afflictions, remarquez qu'il dit, les légères afflictions. Pour l'apôtre Paul qui avait été lapidé trois fois, qui était en prison, je ne sais pas combien de fois, dans le naufrage plusieurs fois, qui était. Passé presque trois fois proche de mourir, il dit nos légères afflictions. Il faut croire pour lui, c'était encore des épreuves qui n'étaient pas si terribles que ça, parce qu'il appelle ça nos légères affections. Nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles. Et quand il arrive une épreuve, je ne regarde pas l'épreuve. Je regarde à Christ. Parce que je sais que je suis sous lui. Je suis sous sa gouvernance, sous sa bénédiction. Je continue à regarder à Christ et je garde la paix parce que je sais que toute chose engendrer sa gloire, sa bénédiction. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas regarder à ça, parce que c'est sûr que si tu mets à regarder à l'épreuve, puis tu regardes juste avec tes yeux les choses visibles, là, tu vas perdre courage, ta foi va diminuer. Il ne faut pas que tu regardes à ça, il faut que tu regardes à Christ. Tu demeures sous le sang. Tu demeures dans l'œuvre accomplie. Tu demeures dans ce que Christ a accompli, toute chose à la croix. Son salut est parfait. Il n'y a plus aucune condamnation. Le diable va me laisser venir. C'est parce que tu as fait ça, c'est pour ça que l'épreuve t'arrive. Il n'y a plus aucune condamnation. Tu peux faire taire l'accusateur des frères. Tu peux faire taire la voix du diable. Et dire, arrête de moi, Satan. Ces choses-là n'arrivent pas à cause de mon malheur. Tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Tu demeures sous le sang. Sous le sang, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien qui peut venir contre nous en autant qu'on demeure sous son sang. et que je continue à tous les jours à regarder non point les choses visibles. C'est pourquoi je laisse détourner mes regards vers les afflictions qui arrivent, mais que je continue à regarder vers Christ. Lui, il a toutes choses entre ses mains. Lui, il sait ce qui s'en vient. Puis toutes choses sont meilleures. Toutes choses sont bonnes. Hein, des fois, on désirait quelque chose, que quelque chose s'accomplisse, puis là, la chose qu'on désire ne s'accomplit pas. Mais c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur. Hein? Dieu a le meilleur pour nous. Dieu ne se contente pas du piètre. Hein, notre pensée à nous autres, on pense avec notre tête, mais on est tellement petit que quand on pense avec notre tête, on voit juste une petite partie, puis on dit, ben, je pense que ce serait bon pour moi que ça s'accomplisse. Mais Dieu dit non, non. Et ça n'accomplira pas parce que ce n'est pas le meilleur pour toi. Moi, j'ai quelque chose de mieux encore. C'est toujours ça, c'est toujours... Des fois, on n'a pas ce qu'on s'attend à savoir. Mais c'est mieux, parce qu'il y a quelque chose de meilleur.